Bonjour, bonsoir, Adicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission « Et si demain ?» sur Esprit Occitanie, l'émission que vous retrouvez en direct tous les mardis entre 17h et 18h, avec à la réalisation technique d'Orient Gilman et Valentin Sirug, et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission. Au micro, Christian Morito, mais pas que, puisqu'il y a trois invités dans le studio. Et normalement, on a mis Landy Sella qui va arriver co-animateur de l'émission. L'indicatif est signé de Damien Morito. Et puis, nous allons partir pour une heure. Et si demain, ils arrêtaient de nous empoisonner, et si demain, les alternatives, les bonnes, arrivaient au pouvoir, eh bien, la chapelle serait reconnue non plus. Enfin, comme un lieu, en tous les cas, de création, ça en est déjà un. Et donc, je salue au passage mon ami Jacques Dandelot. Bonsoir.
Bonsoir. Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Et nous avons aussi Aurélie. Alors, je ne connais pas ton nom de famille.
Aurélie de la Chapelle, c'est très bien.
D'accord, Aurélie de la Chapelle et donc Loïc de la Chapelle aussi.
Voilà.
C'est ça. Donc, nous allons pouvoir prier donc, ce soir avec les 25 années d'existence, dont je rigole, et avec la pérennisation du plus vieux squat en France. Presque. Allez, en tous les cas, un lieu de création culturelle et autres. La Chapelle qui est située rue Casanova. Donc, pas très loin du siège du conseil départemental. Et on a mis Landy Sella qui arrive dans le studio. Et donc, Jacques Dandelot, tu es administrateur d'Info GM et aussi du collectif contre les nuisances génétiquement modifiées.
Et faucheur volontaire de GM.
Et faucheur volontaire aussi de GM. Et donc, quelle est l'actualité brûlante, hormis que Bayer a mangé Monsanto pour éviter les plaintes, peut-être, et toute autre chose, ou simplement pour nous empoisonner dans un premier temps et nous proposer les médicaments oui. Après.
Ça, le futur le dira. En tout cas, le mariage a été douloureux. C'était long, mais ils ont réussi à coup de milliards. D'ailleurs, au passage, Bayer s'est endetté de... je ne sais pas combien de dizaines de milliards, mais on n'est pas là pour pleurer. Non. Au contraire, enfin, tu soulignes un point important, hein, parce qu'effectivement, dès le début de ce mariage, il y a un petit truc quand même qui est intéressant de dire, c'est que c'est vraiment l'arroseur arrosé, parce que au tout début de cette histoire, c'est Monsanto qui a essayé de racheter Syngenta, et l'OPA a loupé. Et ça a aiguisé des appétits de par le monde. Et c'est finalement Monsanto qui s'est fait bouffer par Bayer. Et au passage, Syngenta s'est fait croquer par une firme étatique chinoise qui s'appelle Chemchina. Et de l'autre côté, Dupont et Dow AgroScience ont fusionné. Donc il reste trois énormes groupes avec à côté BASF qui est tout sauf petit, quoi. Grosso modo, toute la semence et toute la chimie autour de la semence, je ne parle pas de tout ce que fait Bayer à côté, hein, mais sont entre les mains de quatre multinationales.
Ah, c'est eux qui dominent le monde, finalement.
En tout cas, quand on domine...
Qui essaie de dominer le monde.
Oui, quand on domine les semences, c'est vrai que... Ben, je sais pas, on est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Là, je crois qu'on mange à peu près tous les jours. Hein. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Et donc, effectivement, c'est... Bon, c'est une vieille histoire, mais qui domine les semences domine le monde, c'est clair. Oui.
Landy Sella, donc bonsoir, bienvenue dans l'émission. Donc tu as des questions, je dois la poser aussi à Jacques et après aussi également à Aurélie et Loïc de l'atelier idéal.
Oui, je viens de prendre le train en route parce qu'il y avait une panne de métro.
Oui.
Donc, et quand on parle d'alimentation, aujourd'hui, il y a une guerre d'étiquettes en fait qui se joue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui se joue? Parce que normalement, on a le droit aujourd'hui de voir sur l'alimentation les étiquettes que pour l'Europe, je pense, si je ne me trompe pas, tu me reprends, Jacques.
Oui.
Pour l'Europe, il y a une obligation, en fait, d'avoir une étiquette. Mais pour la France, pardon, on a une sorte d'obligation de mettre qu'il n'y a pas d'OGM. Par contre, pour l'Europe, non.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Les obligations, enfin, les réglementations sur l'étiquetage sont nationaux et pas européens.
D'accord.
C'est une première chose. Ensuite, alors, ce qu'il se passe aujourd'hui au Sénat, en ce moment, là, ça vient juste de commencer. Hein. En fait, c'est effectivement la discussion, là, je regarde mes notes parce que je ne connais pas tout ça par cœur, mais c'est la loi agriculture et alimentation qui est déjà passée à l'Assemblée nationale. Et c'est là, bon, on en parlera peut-être après, où il y a eu toute cette manip, le glyphosate, enfin, le fait que le glyphosate s'arrête dans 3 ans, soit inscrit dans cette loi, ça a failli passer, mais c'est pas passé, mais on en parlera un petit peu, à l'Assemblée nationale. Et donc, ensuite, c'est passé au Sénat. Le Sénat a retoqué plein d'autres amendements, mais on pourra le détailler un petit peu, hein, je connais pas tout ça par cœur, parce que pour aujourd'hui, par exemple, au Sénat, il y a eu 700 et quelques amendements de déposés. Donc c'est clair, je ne les connais pas par cœur. En tout cas, il y a des grands points qui nous intéressent plus directement. Et ce qui a fait un peu le buzz autour de cette loi, c'est 2 choses. Ce qu'on évoquait, c'est l'histoire du glyphosate, autorisé pendant 3 ans ou inscrit dans la loi, etc. On en parlera. Il y a aussi ce gros coup sur les 20 ou 30% ou 40% de bio dans les cantines, cet amendement est passé à l'Assemblée nationale, il a été retoqué au Sénat, et il y a aussi d'autres dispositions, hein, mais c'est ce qui est ressorti un petit peu. Et donc, comme évidemment il y avait, ça c'est la cuisine électorale française, hein, parlementaire, comme il n'y avait pas accord à la virgule près entre le texte de l'Assemblée nationale et le texte du Sénat, il y a une commission paritaire mixte. Ça repasse au Sénat en ce moment, donc jusqu'à vendredi. Et ensuite, ça repasse, in fine, à l'Assemblée nationale. Et là, de toute façon, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Voilà, ça, c'est la mécanique parlementaire. Et donc, dans cette commission paritaire mixte, il y a des amendements qui sont les 600 et quelques amendements là, qui ont été ajoutés. Et par exemple, il y a évidemment tout ce qui a été retoqué au Sénat en première lecture, a été, alors en changeant un peu les formes, parce que je crois qu'on ne peut pas remettre exactement le même texte, mais en changeant un peu, mais en gardant l'esprit, ça repasse au Sénat. Et par exemple, le 40% de bio dans les cantines scolaires sera soutenu par les rapporteurs de cette loi et par le ministre de l'Agriculture. Donc je ne sais pas si c'est une promesse électorale de Macron, j'en sais rien, mais en tout cas, là, le gouvernement fait le forcing pour que ce soit réintroduit dans la loi.
Oui, déjà, c'est pas mal quand on dit 40, mais pourquoi pas totalement. Donc on demande toujours plus. Il s'agit d'alimentation. Et là, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas d'écolo, il s'agit d'humains.
Oui, complètement. Alors le fait que c'était retoqué au Sénat en première lecture, hein, les arguments sont essentiellement que
la FNSEA, ils ne sont pas encore tous en bio.
C'est ça, le problème, c'est ça. C'est qu'effectivement, l'idée a été de dire, c'est pas ce que je soutiens du tout, évidemment, je fais que rapporter ce qui a été dit à l'Assemblée au Sénat, pardon, c'est qu'on veut privilégier le local et qu'il n'y a pas suffisamment de bio local pour toutes les cantines. Ce qui est actuellement, bon, il faut dire ce qui est vrai. Oui. Ce qui est vrai. Et donc, l'idée qui était défendue, c'est de dire, mais on privilégie le local. Donc, attendons qu'il y ait suffisamment, un jour, hein, peut-être, qu'il y ait assez de bio pour effectivement arriver à 40%. Bon. J'espère que le Sénat, il y a l'appui du gouvernement, donc ça devrait passer quand même. Le Sénat remette cet amendement dans la loi, enfin, ce dispositif dans la loi, qui sera sans doute validé sans problème par l'Assemblée nationale, puisque de toute façon, les macronistes sont largement majoritaires. Donc
oui, après, c'est difficile de faire du bio. Hein. C'est compliqué parce qu'on va courir derrière le bidon. Hein. J'étais en train de... Quand tu parlais de glyphosate, je pense que si mes infos s'avèrent fiables, il y a un jeune qui a été condamné, en fait, avec 1 mois de sursis... requise par rapport à glyphosate parce qu'il est entré dans un magasin, il a dénaturé un petit peu le bidon.
Je sais pas, je peux raconter l'histoire depuis le début un peu. Enfin, pour ça, en tout cas, il y a deux choses importantes sur le glyphosate. C'est le coup de la loi, parce que, enfin, en tout cas, de l'amendement qui n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Parce que ça, c'est important quand même de le dire. Et après, il y a tout ce qui se passe autour du glyphosate, en tout cas, nationalement, avec essentiellement les faucheurs volontaires. Donc, sur le coup de la loi, hein. Donc, voilà, j'ai pris mes... J'ai regardé comme tout le monde. Hein. À l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. D'accord. Le soir, c'était le 28 mai 2018, au soir, hein, vers 1h du matin. Alors, c'était, je ne sais pas si c'était le 28 au matin ou le 27 au soir, je ne sais pas trop. En tout cas, il y avait 491 absents. Donc, il y avait que 85,1% des députés qui étaient présents. Parmi ces votants, donc il s'agit bien d'un dispositif qui devait inscrire dans la loi l'obligation d'interdiction du glyphosate au bout de 3 ans.
Oui, pardon, tu as dit 480 combien de présents ou d'absents ?
Non, 491 absents.
Donc c'est 85% d'absents.
Oui, oui,
d'absents. Tu as parlé
oui,
de présents.
Ah non, je me suis gouré, oui, ouais. Oui, il y avait personne, quoi.
Donc ils étaient en train de traiter leur.
Alors, c'est une histoire.
Ils étaient en train de s'empiffrer avec des organismes génétiquement modifiés, peut-être.
Alors, sur à peu près 15% qui étaient là, il y en a 63 députés qui ont voté contre ce dispositif, 20 pour, 2 blancs et 1 non-votant. Pour la petite histoire, c'est De Rugy qui était président, qui ne doit pas avoir le droit de vote dans ce cas-là quand il préside. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, par exemple, sur la... Alors, je ne fais pas la France insoumise comme un bouc émissaire, je ne la prends pas comme ce groupe comme un bouc émissaire, mais on peut penser que s'il y en a qui devaient bien être là pour voter pour ce dispositif, c'est eux. Il y avait un présent sur 17... Et ce n'est pas des votes bloqués, hein, c'est présent, tu votes, tu n'es pas là, il n'y a pas de vote. Hein. Donc il y avait un présent. Et sur la Haute-Garonne, par exemple, hein, il y a 10 députés en Haute-Garonne. Il y a de 9... 8 La République En Marche, un MoDem et un NG, c'est Nouvelle Gauche, je crois, c'est ex-PS. Et donc, il y avait deux présents, qui étaient deux présentes, parce que c'est deux femmes, mais ce n'est pas neutre, hein, qui étaient bien sûr de La République En Marche et qui ont voté pour le dispositif. Voilà. Donc, c'était un peu transcourant. Mais ce que je veux dire sur... Et, enfin, c'était... Moi, j'étais très, très en colère. Hein, je n'étais pas le seul, hein, bien
non,
sûr.
Non,
très
non,
en
non,
colère
non,
parce que sur, c'est... Il y avait tellement peu de présents qu'il aurait suffi que dans les groupes qu'on pourrait croire les plus prêts à voter ces dispositifs, eh bien, tout simplement, ils n'étaient pas là. Alors, il y a eu des explications complètement foireuses, parce qu'on peut toujours tout expliquer, hein, que c'était des séances qui duraient beaucoup trop tard, que tous les soirs avant, ça avait duré jusqu'à 1h du matin, donc ce n'est pas un marche forcée, etc. Moi, je dis, peu importe, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous n'étiez pas là, et vous faites que... C'est pas ce dispositif et pas dans la loi. Alors le travers, il dit, mais c'est pas grave, puisque c'est une promesse de Macron, on tient toutes les promesses, etc., donc ce sera fait. Voilà, donc ça, il suffit de le croire aussi. Hein. En tout cas, ce dispositif n'est pas passé. Depuis, il y a 2 jours à peu près, il y a eu un comité interministériel. Ils ont fait un truc, Théodule, j'ai les papiers là, mais peu importe le terme exact, une task force qui va réfléchir à comment... En 3 ans, se passer du glyphosate, ils vont faire une base de données. Ça fait 20 ans hein, que la réautorisation du glyphosate est sur les rails. Hein. Et aujourd'hui, ils disent ben, finalement, on va faire une base de données. On va étudier comment on pourrait se passer du glyphosate, alors que tout le monde sait qu'en décembre 2017, c'était la fin de l'autorisation.
Et ça, c'est les travers, bien sûr, du poids des lobbies des dirigeants des transnationales qui ont des relais un peu partout, d'élus aussi, qui
oui,
effectivement
oui, c'est aussi,
démissionnent. Quelque
c'est
part.
Aussi une non-responsabilité des élus, et quels qu'ils soient. Et ça, je trouve vraiment ça très, très ennuyeux pour rester correct.
Donc n'oubliez pas qu'il y a des écologistes qu'il faudra peut-être remettre en selle pour que ça bouge. Et je recevrai vendredi dans l'émission de Traversée Patrick Gimena, qui était à Europe Écologie des Verts et qui est passé à la France Insoumise. Donc il aura peut-être un mot à dire à ce niveau-là, que tu connais bien, et qui, lui, est quand même quelqu'un d'engagé.
Oui, oui, mais je pense que tous les députés de France Insoumise sont des personnes engagées. Ruffin, il n'y était pas non plus. Hein. Mmh. Donc on peut faire des effets de manche sur les tribunes, dans tous les papiers, et il n'était pas là quand même. Mmh. Et ça, ça me met vraiment en colère. Mais je l'aime bien par ailleurs.
Il y a de quoi, il y a de quoi l'être. Donc, voilà. Merci pour...
Après, vas-y.
Moi,
je sais pas, parce que je peux
continuer. Oui, non, mais continue.
Ensuite, sur le... donc, l'histoire de... que tu évoquais sur le... la personne qui a été condamnée, c'est... enfin, c'est pas condamnée encore, hein, parce que le délibéré, ça, c'est la réquisition de... du PROC. Hein. On verra, c'est dans quelques jours, parce que c'est, je crois, le 3
juillet. Oui, la semaine prochaine, le 3-4, ouais.
Donc, l'histoire, elle est... quand il y a eu les... ou tous ces problèmes de glyphosate qui sont après le... quand le tribunal Monsanto, enfin avant, mais c'était un accélérateur, après le tribunal international contre Monsanto à La Haye, etc. Bon, il y a eu beaucoup de buzz un peu là autour, et il y a des copains, on avait décidé, les faucheurs volontaires, hein, de faire des actions un peu dans toute la France, et les plus actifs dans ce domaine ont été les Ariégeois. Ensuite, il y a eu des Ardéchois, des Bretons et des gens de l'Hérault. Et le premier procès a eu lieu à Foix, en Ariège. Hein, et là, ils étaient 20 à peu près, à être mis en examen pour avoir barbouillé des bidons de glyphosate, en tout cas d'herbicides à base de glyphosate, dans différentes jardineries ou de grandes surfaces. Parce qu'il faut savoir que pour qu'un produit soit vendable, la composition doit obligatoirement être visible. Donc... si tu mets de la peinture ou ce que tu veux sur la composition, sur le bidon, normalement, c'est obligé que c'est plus vendable, quoi. Ou alors enlever la peinture, etc., etc., quoi. Donc les directeurs de ces magasins ont porté plainte. Ça a donné lieu à un procès. Et donc il y a eu 4 procès, en fait. Hein. Un à Foix, un à Guingamp, un à Béziers et un à Privas, en Ardèche. Ces 4 procès se sont déroulés de manière très différente. En Ardèche, ils ont été condamnés à quasiment rien du tout, donc ils ont décidé de ne pas faire appel. Hein. Et même, il y a eu aussi des procès ADN là autour, les personnes ont été relaxées. À Foix, il y a eu une chose intéressante, notre avocat, Guillaume Tumerel, bien sûr en travaillant avec les faucheurs, hein, avait posé des questions préjudicielles, a demandé au président du tribunal de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Ça veut dire, ben, moi, juge de foi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, donc je ne suis pas capable de juger. Donc j'accepte vos questions préjudicielles, et ça, je vais les transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne. Et à Foix, il l'a fait la présidente l'a fait directement. Ce qui est assez étonnant, c'est que le procureur... hein, et aller complètement dans le sens de l'avocat, ce qui est rare, hein, comme l'avocat de la partie civile, de l'avocat, pardon, des accusés. Hein. Donc voilà, ça a été fait. Et le procès s'est arrêté là. Et donc, ben, tout ça est dans les mains de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça va prendre 6 mois, 8 mois, enfin un an, on ne sait pas trop. Il y a eu pas tout à fait le même dispositif, mais à Guingamp, ça s'est passé à peu près comme ça. Pas tout à fait, mais je passe sur les détails. Et à Béziers, qui était le dernier, c'était début juin, c'était au début du mois, à Béziers, le président a dit bah, « Cette question préjudicielle, moi, ça m'intéresse pas. Je joins ça au fond. Hein, » c'est le terme juridique. On étudiera ça après, plus tard. Et on va bien sûr juger le délit. Quoi. Le procureur a foncé là-dedans, disant « Vote comme d'habitude. Hein, depuis qu'il y a des faucheurs, qu'il y a des procès, c'est le même discours. Votre combat est louable, c'est bien, c'est très bien ce que vous faites, etc. Mais vous êtes avant tout des délinquants, et moi, je suis là pour juger des délinquants. Donc certes, vous avez sans doute raison, mais ce n'est pas mon problème ici. Hein, » Donc voilà. Et ça a toujours été la tactique hein, des faucheurs volontaires, de dire « De toute façon, on agit toujours de plein jour à visage découvert, on donne des listes s'il n'y a pas de flics, donc on assume. Hein, » et le jugement. Et donc, voilà, on est là pour parler du fond. Donc, tout le jeu, dire, bah, allez, le fond, la forme, on évacue et on parle du fond. Et malgré tout, et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est pas un, je crois qu'ils sont 6 ou 7, hein, à Béziers, les réquisitions, c'est effectivement 1 mois de prison avec sursis. Et ça, c'est une grande première. On verra dans quelques jours ce que va décider le juge. Quoi. Voilà.
D'accord.
Ouais, merci Jacques.
Merci pour toutes ces explications. Je me tourne, mais vous pouvez aussi intervenir, les invités entre vous. Hein. Il y a deux interdits, comme je le dis souvent, c'est de faire la promotion du Front National ou maintenant, je ne sais plus, Rassemblement National, et des dirigeants de la FNSEA, qui sont tous sauf des paysans, comme je le dis un certain nombre de fois. Alors Aurélie et Loïc de La Chapelle, donc vous êtes des nobles, je suppose. Donc en ce moment, il y a une fête, enfin plusieurs fêtes, manifestations, en tous les cas, 28 rue de Casanova à Toulouse, donc pas loin du siège du conseil départemental, parce que ça fait 25 ans que ça existe et qu'il y a eu en plus un bail qui a été signé avec la ville de Toulouse. Alors que se passe-t-il dans presque le plus vieux squat alternatif basé en France?
Alors juste peut-être pour faire un petit peu d'historique, donc, oui. Donc en fait le lieu appartenait au diocèse depuis 1927 et donc il y a eu des messes et il a été utilisé pour faire des célébrations, certains voisins ont été baptisés dedans, jusqu'à peu près au milieu des années 80 où il a été laissé complètement à l'abandon. Donc après, en 93, un premier collectif a investi le lieu, qui s'appelait Planète en danger. Et ensuite, en 96, ils ont créé une nouvelle association qui s'appelait l'Atelier idéal. L'idée étant que cette association allait gérer le lieu, de façon collégiale, horizontale, etc. etc. Et donc, le diocèse était encore propriétaire jusqu'en 2009, où là, le diocèse a décidé de se séparer du lieu. Et à ce moment-là, l'ancienne mairie a donc racheté le lieu. Donc rapidement, la mairie est venue nous proposer une convention administrative, que nous avons refusé parce que juridiquement, on considère que ce n'était pas quelque chose de solide sur le long terme et c'est très, très facilement cassable. Donc on s'est mis à négocier avec la mairie précédente. À chaque fois, on leur disait qu'on souhaitait divorcer en bons termes. Donc on a négocié avec l'ancienne mairie, nouvelles élections, nouvelles négociations. Et donc là, au final, on a réussi à signer donc, en janvier deux choses en même temps. Donc à la fois un bail emphytéotique, donc c'est un bail de très long terme où on a les droits et devoirs d'un propriétaire. Et donc en échange d'un loyer modique, qu'on doit faire entretenir le bâtiment, faire de la mise aux normes, etc., etc. Et en même temps, en janvier, on a aussi signé une promesse de vente à 5 ans. C'est-à-dire qu'on a 5 années, si on arrive à la fois à mettre le bâtiment aux normes et récupérer assez d'argent, on pourra complètement soustraire le lieu à la propriété
collective.
Propriété, on va dire, de la mairie. Et comme ça, même après les 40 ans, on sera couvert.
Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu un appel, qu'il y a toujours un appel en cours pour participer au cofinancement, on va dire, de ce lieu.
Oui, alors là, il y a eu une première campagne d'appel aux dons qui nous a permis de récolter environ 35 000 euros, qui est une somme d'argent qui est nécessaire pour la mise aux normes et qui va commencer dès cet été. Et il y aura une deuxième phase dans l'appel aux dons. Donc, qui va être soit pour compléter les travaux, mais beaucoup plus pour la perspective de rachat collectif, donc pour pouvoir lever la promesse de vente avant les 5 ans. Le prix d'achat a été mis à 100 000 euros, me semble-t-il. Donc voilà, il y aura une deuxième phase d'appel aux dons pour récolter ces 100 000 euros avec tout un travail que le collectif a fait, qui est toujours en cours concernant la propriété collective et comment on peut la mettre en œuvre.
Et la base de fonctionnement de la chapelle, c'est du bénévolat?
Ah oui. Dans nos statuts, c'est marqué qu'il n'y a aucun salarié.
D'accord.
Sur ce lieu. Donc effectivement, on est tous bénévoles.
Et donc, en ce moment, pardon, je te coupe, Landy, juste parce que sinon nous allons finir par l'oublier, mais il y a spécifiquement cette semaine plein d'animations, plein de choses qui s'y déroulent.
Voilà, l'idée, c'était de un peu fêter avec l'ensemble des gens, que ce soit à la fois des collectifs ou même des gens qui sont venus faire de la musique ou du théâtre, et de leur proposer une semaine d'événements, de façon à ce qu'il y ait des événements assez variés, qu'il y ait du théâtre, de la musique, des lectures sonores, des ateliers, il va y avoir un peu d'ateliers sérigraphie. Il y aura une librairie associative, on va aussi sans doute faire un repas de quartier. Voilà, l'idée, c'était un peu de faire un mélange de tout ce qu'on fait d'habitude déjà à la chapelle et de proposer une semaine d'événements. Là, en plus, ça tombe plutôt bien, il fait beau et c'est sympathique.
Tous les soirs, il y a quelque chose. Et juste pour dire que ce soir, c'était un concert de cordes anciennes qui mélange avec plusieurs courants musicaux différents allant du classique au métal. Voilà, c'est ce soir.
Et donc, si nous voulons avoir tout le programme, et je suppose qu'il y a des pages qui sont ouvertes pour aller le récupérer.
sur le site internet www.atelieridéal.lot.net.
Pardon, je n'ai pas compris.
www.atelieridéal.lot.net.
D'accord, merci pour ces précisions. Et Jacques, tu connais bien ce lieu puisque tu es intervenu un certain nombre de fois concernant oui. nos chers organismes
oui.
génétiquement.
Tu es venu à la chapelle.
Oui, oui, je viens. On est venu faire quelques, mais pas tant que ça, hein, parler un peu OGM et tout ça, de semences à la chapelle, mais pas très souvent. Mais après, c'est un lieu que je fréquente, oui, assez souvent. Enfin, voilà. Il s'y passe des choses bien, donc c'est normal, j'y aille.
C'est pas seulement un lieu culturel. Il y a la base. De ce lieu où il y a les pétitions, manifestations. Donc c'est classé un peu de gauche, ce lieu, non ?
Pas forcément. Alternatif, en tous les cas, mais alternatif dans le droit.
Alternatif et militant, on va dire.
Ouais. On n'a pas d'étiquette politique.
Mais vous êtes alors pour la compétition ou pour la coopération ?
Pour le faire ensemble et le vivre ensemble.
Très bonne réponse. D'accord.
Je ne sais pas comment le nommer, mais je le définis comme ça.
D'accord. J'appellerais cela plutôt coopération.
Vous le voyez comment, vous, l'avenir ? Vous êtes combien de bénévoles ?
Donc en fait, il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une association qui gère le lieu, mais après, il y a aussi d'autres collectifs qui viennent pour faire des événements. Après, il y a d'anciens membres de l'association ou des gens qui sont proches de l'association. Donc en fait, dans la collégiale de l'association, on doit être une dizaine ou une douzaine. Mais après, on a aussi pas mal de camarades autour qui gravitent, soit directement, soit indirectement.
Il y a des membres de soutien. Il y a plusieurs, comme disait Loïc, plusieurs collectifs sur le lieu qui pratiquent différentes expériences. Donc il y a La Dérive, qui est une association, me semble-t-il. Il y a le kiosque également, qui est la librairie associative indépendante. Il y a différents collectifs militants qui ont pu utiliser le lieu également de manière plus ou moins régulière. Je pense au collectif Autonomie, qui n'est plus sur le site, mais qui, avec qui on est solidaire.
Donc voilà, après, il y a aussi des collectifs qui se créent, qui après ne sont plus là. À une époque, il y avait aussi la relâche qui s'occupait des soirées du lundi. À une époque, il y avait aussi des boulangers, comme on avait un four à pain, qui faisait des fournées de pain tous les dimanches. Donc après, suivant les énergies et les motivations, différents collectifs utilisent le lieu.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous le voyez comment, l'avenir de lieu ? Il faut que vous obteniez cette somme par le biais de donateurs ou...
Alors il y a différentes choses. Ça veut dire qu'en fait, que ce soit l'achat ou même le bail amphithéotique, il est conditionné au fait que nous avons 2 ans pour mettre aux normes. Donc là, on a réussi à avoir la somme nécessaire pour acheter les matériaux. Sachant que nous, on a budgétisé que les matériaux, vu qu'on considère que toute la main-d'œuvre sera bénévole. Et donc là, justement, l'été, on va commencer à faire des travaux relativement importants. Donc les travaux sont relativement simples, c'est tout le temps la même chose. Après, c'est tout ce qui est lié au feu, à l'électricité et à l'accessibilité. D'accord. Donc on a déjà déposé un dossier de travaux, on a un camarade architecte qui nous a fait des plans, etc. etc.
On fonctionne beaucoup, comme disait Loïc, au bénévolat. Et on fonctionne aussi, on essaye d'avoir un réseau aussi de gens et de compétences. Il peut y avoir des dons de compétences aussi faits par les artisans qui peuvent, ou les entreprises qui peuvent du coup défiscaliser leur don.
C'est possible,
le fait
ça.
Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible. Donc nous, on a un réseau de camarades qui sont là pour filer la main. Après, on cherche toujours, on est toujours en recherche de compétences, que ce soit au niveau de l'accessibilité, de l'électricité, des normes incendies. On a déjà bien travaillé là-dessus, mais toute bonne main est la bienvenue, j'ai envie de dire.
Et vous passez la plupart du temps, c'est bouche à l'oreille ou vous avez le site internet qui...
On a plusieurs réseaux de communication. On a le bouche à oreille. Mmh. On intervient beaucoup en public selon des phases de communication qu'on organise. Mmh. Il y a le site internet. On a une page Facebook également, Atelier Idéal La Chapelle. Et après, c'est des interviews sur des soirées débats ou alors comme maintenant sur des radios.
D'accord. Merci pour ces précisions. Allez, je vous propose de marquer une pause en chanson. Mélis Mel, que connaît bien aussi Jacques Dandelot, puisque nous l'avions vu d'ailleurs chez nos amis du bijou, et ça s'appelle Les Brebis. Alors ce n'est pas n'importe quelle brebis, et surtout n'allez pas vous jeter dans la gueule de, vous savez, de ce fameux rassemblement là qui s'appelait autrement. À tout de suite.
chacun son chemin. La liberté se jette au delta au-delà, où l'océan reflète. On dit que tout est grand, à y perdre la tête. On y goûte un instant et dedans tout s'émiette. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. Ici-bas, elles se gavent de ferraille, de plastique, d'arbre ou de betterave et d'amour synthétique. Devant ce grand festin, la liberté regrette. Les brebis ont vomi, l'indigestion les guette. Qu'y a-t-il donc après ? Plus rien. Les brebis sont tentées par les sentiers divins, crapahutées là-haut pendant les transhumances. Dans l'auberge il fait chaud, elles remplissaient leurs panses de sermons asservis, sans une prière et au lit, sans s'inquiéter du temps, sans redouter l'errance, le pasteur rabâchant ses conseils de prudence. Mettez-vous ça dans la tête, les brebis ne sont pas faites pour apprécier le large, pour apprendre à voler, gambader dans les marges, aimer la liberté. Tôt ou tard, tout penaud, on rejoint le troupeau. À chacun son chemin, la liberté se jette au delta, au-delà, où l'océan reflète. On dit que tout est grand, à y perdre la tête. On y goûte un instant et dedans tout s'émiette. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. Ici-bas, elles se gavent du premier fanatique, levant le sourcil grave ou le doigt prophétique. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. On les a déjà vues foncer à l'aveuglette quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule.
Bonsoir, bonjour, comme vous voulez, Adicias, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission. Et si demain, sur Esprit Occitanie, alors Mélisse Mel, elle ne parlait pas du loup du Mercantour, hein, c'est un autre plus vicelard, plus dangereux sans doute. Et pour info, demain, il y aura une émission spéciale entre 16h et 17h, et peut-être un petit peu plus, que je co-animerai avec notamment Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme, puisque nous accueillerons Cédric Héroux, qui est ce soir chez nos amis de l'American Cosmographe. Cédric Héroux, qui donc est le paysan qui a accueilli des réfugiés chez lui du côté de Nice et qui, du coup, est condamné pour délit de solidarité. Donc bravo, merci la République française. Et c'est en partenariat avec le réseau des étudiants toulousains en soutien aux exilés et réfugiés et le cercle des voisins du centre de rétention administratif de Cornebarieux. Donc ce soir, je sais que c'est complet et c'est tant mieux chez nos amis de l'Américain de Cosmographe, mais il sera aussi demain soir à l'Utopia de Tournefeuille, et puis il va aussi passer à midi chez nos confrères de France 3 Sud. Mais nous l'aurons aussi en direct ici dans l'émission et pendant une heure, alors que France 3, ça sera sans doute 3-4 minutes. Donc il aura plus de choses à nous raconter. Certainement, Landy, je te repasse le relais pour interroger, pour passer à la question de nos amis, non ?
Si, par rapport à nos auditeurs, ce serait intéressant que Jacques nous fasse juste, parce que nous, on connaît bien depuis des années, juste un petit peu l'historique de Info OGM, en fait, un petit peu de l'émission, brièvement, l'objectif de Info OGM.
Info OGM est une association, loi 1901, qui existe depuis quasiment 15 ans maintenant. Le siège social est basé à Montreuil. Il y a 6 salariés. Il y en a 3 qui sont plus ou moins à Paris et 3 qui sont en télétravail, un à Limoges, deux à Limoges, enfin 4 en télétravail d'ailleurs, deux autour de Limoges, un à côté de Montpellier et en télétravail à Paris. Mais bon, c'est comme ça. C'est des raisons très particulières. L'objectif de cette association est finalement très simple, hein, puisque c'est une veille citoyenne, scientifique et juridique sur les OGM en France, en Europe et dans le monde. Donc l'idée, c'est de produire de l'information audible et compréhensible par tout le monde. Donc faire de la vulgarisation, c'est toujours mais pas que du tout. Hein. Alors vulgarisation, c'est un terme que j'aime pas beaucoup non plus. Mais en tout cas, c'est de mettre à la portée ces choses bien compliquées de tout à chacun. Et donc là, dedans, il y a Eric Meunier qui est très spécialiste, très tout ce qui se passe au niveau européen. Charlotte qui est une juriste de haut vol, très aussi pour les brevets, la reine des brevets. Christophe Noisette, qui suit, lui, bon, d'abord, il est rédacteur en chef du journal, et il suit aussi beaucoup l'actualité à l'international. Et c'est un chantier énorme avec une toute petite équipe. Il y a un volet très important, heureusement qu'il ne m'écoute pas, parce que je me ferai gronder, qui est autour des semences, puisqu'il y a une collaboration avec le réseau Semences Paysannes. Donc, dans le journal de InfoGM, qui paraît tous les 2 mois, il y a pas tout le temps, mais presque à chaque numéro, un ou deux articles consacrés aux semences paysannes, puisque bon, c'est bien de dire on veut pas d'OGM, mais il faut aussi manger. Et avec aussi des semences qui ne sont, bon, même si elles ne sont pas OGM, elles sont industrielles, enrobées de produits pas sympas du tout, etc. Donc voilà, il y a le journal, le support, enfin le support principal et le site, hein. Le site internet.
Qu'il est très beau d'ailleurs.
Voilà, il suffit de marquer sur votre moteur de recherche préféré InfoGM et vous allez tomber dessus. Le journal est, bon, c'est des abonnements, hein, mais il est, au bout d'un mois, il est mis après sa parution, il est mis à libre disposition. Et ce qui est très important, je pense, de dire, c'est que ce sont des vrais journalistes, hein, puisque bon, sur 6, il y en a 4 qui ont le statut de journaliste. Qui recoupe les informations, ça paraît bizarre, un journaliste qui recoupe les informations aujourd'hui, ils ne prennent pas que les dépêches AFP, qui réécrivent ou pas du tout d'ailleurs. Enfin, tout ce qui est paru, tout ce qui paraît, tout ce qui est publié, l'est avec recoupement. Alors quand ce sont des pays un peu complexes comme l'Inde ou la Chine, c'est parfois pas possible, hein, du tout. Et là, c'est clairement dit, voilà, on n'a pas pu, voilà, nous ce qu'on a, on a lu, on a écrit ça, mais on n'a pas pu recouper l'information. Mmh. On peut dire qu'ils n'ont, en plus de 15 ans, ils n'ont jamais été pris en défaut, parce que, bon, évidemment, il y a des détracteurs qui veillent chaque mot qui est publié, hein, et jamais on a dit, mais là, vous écrivez des bêtises, vous écrivez n'importe quoi. Il y en a qui le disent, bien sûr, mais ça, c'est après vous. Quand on est militant de l'autre bord, on se permet des choses aussi. Mmh.
Mais des militants de l'autre bord qui ont beaucoup plus de moyens, même au niveau médiatique, malheureusement. Mais en tous les cas, toute l'équipe d'InfoGM, dont tu es un des administrateurs, fait la preuve que finalement, ils se sont spécialisés et eux ne prennent pas les études faites par Bayer, Monsanto, Limagrain, Syngenta et compagnie, et Dupont, etc., mais vont chercher vraiment l'info, donc font un travail de fouille et de fond que ne font pas beaucoup de journalistes qui entendent souvent que les sirènes des plus grosses entreprises.
Oui, alors c'est un domaine très très complexe, hein, parce que des études, il en paraît des dizaines et des dizaines, hein, qui sont toutes à comité de relecture, etc., etc. Bon, l'important, c'est de savoir d'où, effectivement, qui a commandité, qui paye, hein, tout bêtement, hein, qui paye c'est toujours très cher parce que c'est sur des années avec plein de rats, plein de rats partout et beaucoup de travail et de gens payés, etc. Enfin, ce sont des études longues et coûteuses, hein. Et comme, on sait qu'aujourd'hui, la recherche pure, même si ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais en tout cas, les organismes d'État comme l'INRA, le CNRS et tous ces organismes eh bien, ont pas assez de, je parle que du domaine agricole, hein, n'ont pas assez de ressources pour faire des études indépendantes. Et puis, c'est aussi dans l'air du temps, on leur dit, mais cette étude, cette recherche, tu pourras la faire si tu trouves la moitié du financement. Hein, donc, si c'est sur des semences ou des dispositifs agronomiques, etc., ben, il y a forcément des firmes intéressées qui disent, ben, moi, je veux bien donner 50%, mais bon, si les résultats d'études correspondent pas trop, ben, à la limite, c'est pas publié. Enfin, il y a tellement de choses à raconter. Il y a toute l'histoire des Monsanto Papers, hein, qui a été mis à jour par nos copains de CIO, là, cet organisme belge qui fait de la veille juridique, hein, sur les lobbies, justement. Et qui ont réussi à vulgariser, à populariser cette histoire des Monsanto Papers, où on lit, hein, il suffit de lire clairement tout ce qui a été mis à jour. Et ça, c'est une des, je dis au passage, parce qu'on dit beaucoup de mal sur les États-Unis, mais ça, c'est un truc qui fonctionne bien, parce qu'il y a eu un jugement, et là, il y a absolue nécessité. Monsanto était obligé de produire tout, c'est-à-dire tous les échanges de mails, tout, vraiment tout, quoi. Et ça permet de voir que tout ce qui est biaisé, qu'il y a des scientifiques qui ont été payés juste pour mettre leur nom au bas d'une étude qu'ils n'avaient pas du tout faite, enfin plein de choses comme ça. Et pour la réautorisation du glyphosate en Europe, les instituts allemands, ceux qui avaient la charge de cette étude, sont allés pêcher là-dedans, quoi, sans tenir compte des Monsanto Papers. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Beaucoup de choses, y compris au fait que d'être journaliste d'investigation, puisque sous couvert du secret des fabrications, etc., qui vient de passer au niveau d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Donc on voit très bien que malgré tout, nos députés, sans doute sous les ordres du gouvernement actuel, sont plutôt du côté des transnationales que des lanceuses et lanceurs d'alerte.
Oui, bah ça c'est, oui, ça c'est une évidence, hein. Mais par contre, alors je ne sais pas comment ce sera appliqué, parce qu'il faut attendre bien sûr tous les décrets d'application, mais c'est parce qu'une loi, en général, c'est très vide. Hein. C'est les décrets d'application, c'est là où il y a les détails qui tuent parfois, ou pas, j'espère, dans ce cas-là. Mais pour savoir quelle va être la portée, l'application, la jurisprudence qui va être, mais en tout cas, c'est quelque chose de très inquiétant, hein, même effectivement, parce qu'il y a tout ce dont on parle un peu partout, autour des perturbateurs endocriniens, par exemple, Marie-Monique Robin, elle va falloir qu'elle change de métier, quoi, hein, parce que je sais pas comment elle va pouvoir, ou Élise Lucet, tous ces gens qui font de l'investigation pointue et qui soulèvent des choses, il y en a beaucoup d'autres, hein, je parle des plus connus, mais ça va poser effectivement des très gros problèmes. Je pense que ces personnes vont continuer, puis ben on verra bien après. Hein. Juridiquement, s'il y en a.
Et alors, est-ce que l'atelier idéal peut être aussi condamné pour subversion parce qu'il apporte d'autres idées?
Ça m'étonnerait. Actuellement, il n'y a pas réellement de base juridique, mais après, tout dépend de les applications et beaucoup de choses. Mais nous, actuellement, on est surtout un porte-parole. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de collectifs. C'est souvent ce qu'on propose aux gens. C'est des collectifs qui viennent nous proposer des événements, en fait. Et donc, nous, justement, des gens qui n'ont pas forcément accès aux médias ou à des choses comme ça, et qui ont des paroles qu'on trouve pertinentes, ils peuvent utiliser notre lieu.
On est un outil. On est un outil.
Voilà, on se considère principalement comme un outil, en fait.
Alors, ce serait encore mieux si tu disais « nous sommes un outil ». Parce que le « on », il est indéfini. Le « nous », il est acteur, quelque part.
Comment vous faites le choix des associations qui viennent, en fait, qui utilisent, en fait, votre lieu comme une tribune, etc. Vous laissez, en fait, libre choix à chaque association, chaque groupe qui vient?
Pas vraiment. En fait, ça va être peut-être choquant, ce que je vais dire, mais on ne se revendique pas comme un lieu... d'expression libre, c'est-à-dire qu'en fait on est plutôt un lieu où comme disait Loïc, en fait on a un outil au service de causes, de luttes et de revendications, de communication, en tout cas de collectifs qui sont peu diffusés, qui n'ont pas la parole ailleurs, ou qui ne veulent pas la parole ailleurs, qui veulent rester sur des canaux de diffusion alternatifs. Il y a des demandes qui sont faites. On a des réunions, en fait, tous les mercredis, et on a un principe de demande où les différents collectifs ou associations extérieures peuvent demander à utiliser le lieu, à se l'approprier pour faire un événement ou alors pour diffuser une parole. Nous, on étudie cette demande, on rencontre les gens quand on a des questions à leur poser et les décisions se prennent au consensus chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, le collectif de l'atelier idéal, en réunion du mercredi, va décider de oui ou non on accueille, de est-ce qu'il y a des questions à poser, est-ce qu'il y a un veto avec argumenté qui est posé par un membre ou pas. Voilà, c'est notre système de décision.
Oui, Jacques.
Oui, c'est un système qui est strictement le même, puisque bon, je suis assez impliqué aussi au hangar de la Cépière, et le mode de fonctionnement, la seule différence, c'est que ce n'est pas le mercredi, mais le vendredi que se font les réunions, mais sinon, les personnes ou les groupes, les collectifs, peu importe, qui demandent à utiliser le lieu, qui est un outil mis à disposition, qui est en aucun cas une salle à louer. C'est un outil mis à disposition. Il n'y a pas de technicien son, il n'y a pas de technicien lumière à disposition. Il faut faire la cuisine, il faut faire le ménage après. Normalement, il a été fait avant. Il ne faut pas faire de bruit au-delà de 11h pour l'instant, ce qui est une très grosse contrainte. Et voilà, mais la prise de décision, c'est exactement le même mode.
Bon, on se ressemble avec le hangar sur les conditions. Nous, c'est jusqu'à 22h. Bon.
D'accord, parce qu'après, c'est la prière du soir.
Ah non, c'est désacralisé depuis longtemps. Après, non, c'est par rapport au voisinage. On est quand même soucieux de l'intégration, de comment on est dans le quartier. Et on compose aussi avec les habitants qui vivent autour de nous.
Alors, pour rappel, le hangar, il est situé là où il y avait, enfin, pas loin, en tous les cas, l'imprimerie 34, oui, qui fut longtemps et qui maintenant est repartie, mais sous le nom de Scopi.
Voilà, et c'est 8 rue de Bagnolet, derrière la clinique Ambroise Paré à Saint-Cyprien.
Quartier à Rennes,
voilà.
Il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a notamment Christian Bello qui est venu plusieurs fois, qui est un chercheur qui, justement, a vu ses budgets un petit peu laminés parce qu'il a dénoncé, oui, justement, les cultures d'organismes génétiquement modifiés. Que ça ne se fait pas pour des scientifiques. Nous saluons au passage aussi d'autres scientifiques, notamment Gilles-Éric Serrani.
Tout à fait, oui. Bon, Christian et beaucoup d'autres sont passés au hangar, un peu à la chapelle aussi, et voilà, ce sont des lieux à disposition et qui permettent de faire des choses tout à fait intéressantes. Voilà.
D'accord, Landy, d'autres questions ?
Mais pour Jacques, juste une petite dernière. Qu'est-ce que tu attends du projet de loi sur l'agriculture, tout ce qui se passe maintenant qu'est-ce que tu attends de pouvoir en place ?
Ouais, je crois que je peux répondre en un mot, rien.
C'est vrai. Bon, on a la réponse.
Non, j'attends rien parce que le système en place, le système de cette agriculture chimique et tous les lobbies qui sont derrière, qu'ils soient nationaux ou mondiaux, etc., c'est un système global. Et moi, j'ai sous les yeux, ça permet de dire ça, j'ai sous les yeux le communiqué de presse de la Confédération paysanne qui était une réponse, enfin en tout cas une interpellation du mouvement de la FNSEA pour qui ont bloqué des raffineries ou des dépôts de pétrole, etc. Parce que c'est dommage que ça reste dans le noir. Parce qu'en fait, la FNSEA a décidé de bloquer tous les entrepôts de carburant pour protester contre l'importation par Total, qui a recyclé la raffinerie de la Med pour traiter de l'huile de
palme.
De l'huile de palme, qui vient essentiellement d'Indonésie, etc., pour en faire du diester. Il faut savoir que si vous avez une voiture qui consomme du diesel, du gasoil, eh bien, il y a pour l'instant 7% d'agrocarburant qui est obligatoirement incorporé dans ce que vous achetez. Et c'est une catastrophe écologique. Déjà, l'agrocarburant, ça ne devrait pas exister. Mais en tout cas, là, c'est l'huile. Donc, la FNSEA dit, c'est faussé, Total, ils vont importer le Hulot, parce que c'est Hulot qui a signé le texte, permet l'importation de 300 000 tonnes d'huile de palme pour faire du diester. Ils oublient juste de dire qu'eux, ils en importent 200 000 tonnes. Et que, voilà, donc ça, on l'a entendu nulle part. Hein. Donc, non. En fait, c'est parce que c'est pour eux une concurrence déloyale. C'est pour ça qu'ils font ça. La filière colza qui a été mise en place par Sophie Protéol, qui a été mis en place également par Xavier Belin, feu Xavier Belin, un précédent président de la FNSEA, à travers les filiales Avril, Sophie Protéol, etc., font du diester à base de colza. Et tout le colza, la culture, je n'ai pas les chiffres, hein, mais la solde de colza a énormément augmenté depuis 10 ans, 15 ans. Il faut savoir que c'est une industrie qui est complètement sous perfusion de subventions européennes et de subventions françaises. Et c'est pour ça que c'est rentable, entre guillemets, enfin en tout cas pour quelques-uns. Hein, voilà. Et ils rouspètent la compte. Il faut savoir qu'ils utilisent tout le colza, qui est parfois des VRTH, c'est des OGM cachés, c'est encore une autre histoire. Et pour l'huile de table de colza, eh bien, il faut importer l'huile de colza, parce que tout le colza produit en France est quasiment utilisé pour faire du diester. Donc, en fait, c'est vraiment le bal des faux culs, pour rester poli. Parce que, alors, en plus, moi, je ne connais pas les dessous de table, je ne suis pas dans les ministères, mais cette pseudo-opération qui a duré 3 jours, dont on a un peu entendu parler, il y a eu peut-être avant, même d'ailleurs, il y a eu des tractations avant, où ils se sont mis d'accord sur je ne sais pas quoi, ça sortira un jour, puisque ça s'est arrêté aussi vite que c'était parti. Hein. Donc, il y a eu des accords, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose d'une histoire invraisemblable.
Tu n'étais pas, par erreur, destinataire d'un mail qui n'était pas venu. D'accord. Mais si c'est le cas, tu viens nous voir.
Voilà, si vous avez des hackers, nous, on est prêts à accueillir les bonnes nouvelles.
Bon, merci encore, Jacques, pour tes réponses.
Et alors, l'atelier idéal, est-ce qu'il attend quelque chose de nos élus ou pas? Ou est-ce qu'il fait plus confiance aux citoyennes et aux citoyens qui ont un engagement?
Au niveau des élus, nous, ce qu'on a vu en négociant avec les différentes mairies, c'est qu'en fait, on a eu pas mal de désillusions, quelle que soit la couleur de la mairie. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de signer quelque chose, notamment pour avoir le moins de contact avec eux, de façon à rester autonome. Donc de la même façon que nous sommes tous des bénévoles, on ne demande aucune subvention à la mairie, au département ou à l'État ou à l'Europe. Et ça nous permet justement de pouvoir gérer le lieu en tant que bénévole et d'être totalement autonome et indépendant.
Alors pour rappel, donc, il y a toute une semaine où il se déroule un certain nombre de manifestations. C'est la fête à la chapelle. Est-ce qu'en deux mots, 3, 4, 5 vous pouvez nous rappeler ce qui se passe?
En fait, ça va être tous les soirs, donc à partir de 18h. Donc ce soir, c'est par exemple de la musique.
Orme.
Demain soir, ce sera une compagnie de théâtre avec un
Primo Primate.
Jeudi, ça va être un mélange.
Bellegarde, un duo de guitare de voix, accompagné ensuite lumière de lecture électrique.
Voilà, et après on continue en faisant différentes animations.
Vendredi 29, il y a Tamer la Goguette, ainsi que Dédé, qui est du théâtre musical goudronné. C'est comme ça qu'ils se définissent.
Et samedi, là, on va commencer dès le début de l'après-midi avec différents ateliers. Donc là, ça va être notamment en soutien à Autonomie, qui est un collectif qui vient en aide aux jeunes mineurs étrangers isolés, qui sont souvent mis à la rue malgré que le département soit légalement obligé de les prendre en charge. Et donc, ils vont s'occuper. Il y aura différents ateliers qui vont commencer dès 14h, normalement.
Oui, suivi ensuite de quelques musiques des Caraïbes ainsi que du blues rock au cours de l'après-midi jusqu'à la fin de soirée. Et en fait, cette semaine va se terminer par ce qu'on a l'habitude de faire un peu tous les ans, c'est un repas de quartier, c'est assez important pour nous. Donc on clôturera cette semaine par le repas de quartier en mode auberge espagnole. Il y aura évidemment des animations, des lectures au violon, ainsi que une petite pièce de théâtre. Ça se terminera aussi en musique avec du blues folk. Voilà pour le dimanche. Avec pendant toute la semaine, nous c'était l'idée de aussi communiquer sur ce qui se passe sur ce lieu. Car tout le monde n'est pas au courant, et sur son histoire aussi, parce que toutes les personnes qui fréquentent la chapelle ne sont pas au courant de l'histoire. Et c'est important aussi de se définir autrement parce que comment on peut être perçu par les médias. On n'est pas qu'un lieu culturel, on est aussi un lieu on se définit comme un lieu d'expérimentation politique et sociale. Voilà. Donc ça ouvre plein de champs des possibles et il s'y passe également plein de choses de très variées.
Voilà. Et c'est le cas aussi à Poucharamé, parce que j'ai vu que tu as sorti le flyer, Jacques, donc tu peux en parler, parce que c'est un lieu aussi intéressant et où je suppose que le collectif contre les OGM sera présent.
Je pensais à ça tout d'un coup, hein, donc, puisque c'est très proche. C'est dimanche 1er juillet à Poucharamé, qui est en Haute-Garonne, à 30-40 km d'ici. Hein, 30 km.
Plutôt 30.
Oui, 30 km d'ici. Et depuis 5 ans, je crois, c'est peut-être la cinquième, peu importe. Hein, il y a une. Alors, je ne sais pas comment ils se définissent, parce que c'est tout sauf une foire. Hein, c'est le festival des alternatives durables et locales. Donc, il y a des producteurs, mais il y a des gens qui font plein de choses, d'autres choses, des alternatives. Et le thème aujourd'hui, cette année, c'est les communs. Voilà. Mmh. Donc, il y a tout un travail qui a été fait auparavant, des conférences, etc., autour des communs. Et c'est l'association 3PA qui organise tout ça. Mmh. Et c'est un très joli village. Comme il va faire beau, ça va être super.
Voilà, il y a de l'ambiance chaque fois et effectivement beaucoup de porteuses et porteurs d'idées. Donc tout n'est pas perdu, heureusement, mais il y a quand même du taf, comme dirait mon voisin. Et donc merci d'avoir participé à cette émission. Et si demain nous changions peut-être de définition et que nous mettions la finance sous perfusion pour créer autre chose et un monde, dans tous les cas, où l'humanisme, donc avec l'écologie, les alternatives, la culture, la coopération contre la compétition serait là, peut-être que le monde serait meilleur. Et si on enfouissait, enfin en tous les cas supprimait, détruisait les armes et basculait les budgets consacrés à l'armement vers l'écologie, la culture et tout, peut-être que ça irait mieux. Merci en tous les cas à nos amis Dorian Gilman et Valentin Stirug pour la réalisation. Et je vous donne rendez-vous dès demain 16h donc, avec Cédric Héroux, où nous parlerons des réfugiés qu'il a accueillis notamment et de cette bataille qui est menée pour justement défendre l'humain face à la finance et à toutes ces personnes qui ont peur de leurs voisins. Bye bye, à très vite. Thank you.